Nous sommes sur Ligue FM 93.1. Dans la vie est un roman. Et nous reprenons pour une nouvelle saison. Et nous avons la chance, l'honneur et le plaisir de recevoir M. Emmanuel Desvaux pour son livre Sexualité, Société, Nativité, une enquête anthropologique, paru chez Champ Vallon tout récemment, qui sort maintenant. Je veux dire que c'est un livre que j'ai trouvé absolument passionnant, qui revisite toute l'histoire de l'anthropologie et toute l'histoire occidentale, donc en deux parties, une première partie intitulée « Ailleurs » et une seconde partie intitulée, non pas ici, mais je ne sais plus comment.
Ik et nunc.
Alors donc on peut commencer, bonjour et merci d'être venu. On peut commencer avec la partie ailleurs. Vous faites des couples de savants, disons. Et puis quel était le fil conducteur de cet effet d'inventaire? Il y a un effet d'inventaire. On traverse toute l'histoire de l'anthropologie avec quel concept?
Écoutez, effectivement, ce livre poursuit deux objectifs, en quelque sorte. Comprendre la particularité de l'Occident par rapport à la question de la sexualité et de la procréation, car l'Occident est au fond finalement très, très singulier. Et puis aussi, en termes du moins d'introduction au propos, revisiter un peu l'histoire de l'anthropologie ou l'épistémologie de notre discipline, parce que je suis anthropologue, qui curieusement, alors même qu'elle s'est donnée, disons, dès les années 20-30, un peu un programme de libérer l'Occident de son puritanisme, curieusement est restée très très puritain. Très puritaine, l'anthropologie est restée très puritaine, et l'ouvrage majeur de l'anthropologie du XXe siècle, qui est Structure élémentaire de la parenté, de Claude Lévi-Strauss, qui propose une très belle synthèse et une très belle intuition, quelque chose de très très puissant, qui serait que l'échange matrimonial, c'est-à-dire l'échange des femmes, est au cœur même de la société. Au cœur même du lien social, en reprenant une idée qui était chère à Rousseau, donc du contrat social. On renonce à une partie de soi pour un bien commun supérieur. On renonce à sa sœur, on la donne en mariage, pour créer quelque chose qui est supérieur, qui est l'ordre social. Et puis, évidemment, qui était aussi très, très sous l'influence de Marcel Mauss, c'est-à-dire que le très bel essai qui, pour nous, est un grand classique, l'essai sur le don, qui donc articule cette idée que dès lors qu'on donne, eh bien, la chose donnée crée une dette, crée une solidarité, crée un lien, et un lien de solidarité, un lien puissant entre les individus. Alors donc, Lévi-Strauss a combiné en quelque sorte ces deux idées en faisant donc du mariage donc le socle même de l'ordre social. Et ce faisant, c'est tout à fait frappant et intéressant. Et il répondait en quelque sorte à la question qu'avait soulevée Freud, une question bizarrement qui apparaît assez tardivement dans l'histoire de l'Occident, c'est-à-dire la question de l'inceste. Pas que l'inceste était inconnu, mais bon, il n'intéressait pas grand monde avant Freud. Et donc Lévi-Strauss, dans son schéma, propose l'idée que le renoncement à ma sœur au bénéfice de mon futur beau-frère, de mon beau-frère, ce renoncement est fondamental, mais ce renoncement aussi est en quelque sorte la version positive quelque chose qui est négatif, c'est-à-dire la prohibition de l'inceste, l'interdiction de coucher avec ma sœur. Alors, cette thèse très puissante, qui est au cœur même de la réflexion anthropologique, bizarrement, il n'y a pas de sexualité. Alors quand même, quelque part, le mariage, ou quand bien même dans les sociétés, moi je sais pas, Lévi-Strauss parlait encore de société primitive, mais aujourd'hui on ne parle plus de société primitive, donc on va parler de sociétés exotiques traditionnelles, c'est-à-dire des sociétés qui sont autres que les nôtres, mais qui ont vécu jusqu'au XXe siècle et même jusqu'à aujourd'hui dans leur tradition. Eh bien, il y a quand même Il y a des choses. D'ailleurs, on ne peut pas être persuadé que c'est vraiment du mariage au sens où on l'entend. Je pense que c'est pas vraiment du mariage au sens où on l'entend, mais il y a quelque chose qui crée de l'affinité, qui crée un lien et qui crée des liens pour l'enfant à naître, dès lors qu'il y a un enfant, donc il y aura un père et une mère. Eh bien, ce lien-là, qu'on peut tenir pour du mariage, eh bien, il implique quand même, oui, justement, ce moment où l'homme et la femme ont une relation intime, et éventuellement, d'ailleurs, fécondante, mais pas forcément. Donc, il y a un effet de puritanisme, en quelque sorte, qui se maintient même dans la discipline anthropologique, alors même qu'elle avait la prétention, avec Margaret Mead, Malinowski, en quelque sorte, de faire éclater le puritanisme occidental en montrant qu'il y avait des sexualités primaritales, il y avait certaines libertés sexuelles. Mais enfin, quand on lit tous ces textes, il n'y a pas beaucoup de détails, hein, pour dire les choses crûment. Et c'était une de mes premières interrogations qui a été à l'origine de ce livre. La deuxième, je dois dire, c'est une sorte d'agacement. Je pense qu'un certain nombre, non pas Lévi-Strauss lui-même, parce qu'il appartient à une autre génération, mais la génération de ce que je pourrais appeler mes pères, c'est-à-dire ceux qui sont tout de suite au-dessus de moi, Lévi-Strauss étant un peu un grand-père par rapport à moi, d'un point de vue de la chronologie, eh bien, bon, nommons-les Madame Héritier, Maurice Godelier, me semble-t-il, perverti les données ethnographiques pour défendre un peu, disons, les idées dominantes d'aujourd'hui, que sur le mariage pour tous, sur la domination, domination qui serait intemporelle, qui serait quelque chose qui écraserait en quelque sorte la femme par l'homme depuis la nuit des temps. Enfin, toute une sorte de choses, à mon avis, sont plus ou moins vraies, plus ou moins discutables, mais qui dominent un peu aujourd'hui les idées de notre société, et aussi bien Françoise Héritier, en ce qui concerne la domination masculine, d'une part, et Maurice Godelier, en ce qui concerne la question de la famille, la question de la complémentarité entre l'homme et la femme, ont pris les données ethnographiques et les ont tirées dans un sens qui me semble les pervertir, purement et simplement. Aller à l'encontre même de ce que dit l'ethnographie. Donc il faut lire les textes.
Ce qu'on a comme impression quand on lit votre livre, c'est une impression d'infinité. C'est une infinité des possibles et que ça couvre chaque fois l'ensemble du champ. Si par exemple on prend la question du plaisir, on va trouver une civilisation qui met le plaisir en avant et qui va vivre pour le plaisir et qui va mettre au-dessus de tout la longévité, par exemple. Donc on va aller voir une masseuse chinoise qui va nous faire jouir. Parce que c'est bien pour la santé et que ça nous permettra de vivre centenaire et que le but dans la vie est de vivre très vieux. On va trouver une autre société dans laquelle les rapports sexuels ont lieu dans l'ombre avec extrêmement peu de raffinement, avec quasiment une espèce de sinistre animalité, enfin un minimum de gestes et... on va trouver des endroits où la sexualité est au centre de la société. Ou alors on va trouver, par exemple, une société où tout est verbalisé et rien n'est réalisé. Une où tout est réalisé et rien n'est verbalisé. Enfin, si j'imagine n'importe quelle situation, je vais la trouver dans votre livre. Donc c'est toujours très schématique, c'est développé sur deux pages. Je vais même trouver une situation invraisemblable où les femmes dominent vraiment... complètement, enfin vous le remettez en question, mais c'est quand même... Et on va trouver cette espèce de kaléidoscope infini de situations possibles, ce qui remet en question beaucoup les certitudes qu'on peut avoir sur n'importe quel sujet, ce qui donne envie de penser, ce qui est extrêmement ludique et joyeux, qui nous fait renaître en fait, c'est une... Allegra FM.
Vous écoutez Aligre FM.
Et donc, on contemple ce vert multicolore qui nous envoie plein de rayons. Et c'est cet aspect-là, moi, qui m'a beaucoup frappé. Et après, on a l'histoire, dans la deuxième partie, du développement de l'Occident, qui se développe de façon relativement monotone par rapport à la variété des peuples qui occupent toute la Terre. On peut aussi imaginer d'autres... C'est vraiment de l'épistémologie, c'est-à-dire qu'on a à chaque fois avoir besoin de bien comprendre les données de base pour comprendre ce qui en découle. On peut imaginer une société où on ne sait pas comment fonctionne la reproduction humaine parce qu'on n'a que des animaux ovipares. Et donc, on a vraiment des conceptions très, très bizarres, mais qui reviennent sur la vie de tous les jours. Parce que quand même, la vision qu'on a, nous, dans notre quotidien, quand on en marche dans la rue de Montreuil pour venir à l'Aligre FM, c'est une société où les hommes vivent entre eux et les femmes sont à la maison, où qu'on aille dans le monde aujourd'hui. Je ne sais pas, moi, je ne fais pas beaucoup de tourisme de masse, mais cette idée de tourisme de masse, c'est un petit peu ça, puis avec des choses qui n'ont pas beaucoup de fantaisie, ou quand la fantaisie, elle est tellement grégaire, la fantaisie, quand elle est organisée, qu'elle perd toute fantaisie aussi. Donc là, on est là quand même dans une espèce d'infinité des possibles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous avez tout revisité de façon magnifique.
Bon, merci pour ce compliment, mais en fait, j'ai tout revisité. J'ai peut-être pas tout revisité. J'ai essayé de resynthétiser effectivement les données de l'ethnographie à l'échelle de la planète. Bien que je reconnais que j'ai laissé un peu à part et l'Afrique et le monde arabe, mais j'ai essayé aussi en fait de montrer qu'il y avait en fait ce qu'on peut appeler des méga aires culturelles, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a une certaine cohérence. Par exemple, vous avez cité ces régions du monde, qui, en gros, l'Australie et la Nouvelle-Guinée, où on ne sait pas que, on ignore la paternité biologique. Donc, on ignorait qu'il fallait que l'homme et la femme copulent ensemble pour produire un enfant. L'enfant était considéré comme venant d'un esprit qui rentre dans le corps féminin et qui le féconde et qui crée l'enfant. Et c'était rendu possible parce que par le fait que les gens avaient une sexualité très précoce, donc c'était difficile d'indexer en quelque sorte, de faire une corrélation entre acte sexuel et fécondation. D'ailleurs, il y a beaucoup de développement pour dire que nous-mêmes, ce n'est que très tardivement qu'on a réussi à faire la corrélation, du point de vue du moins de la temporalité du cycle féminin.
Donc, à fortiori... On peut dire que c'est vraiment dans les années 70 du siècle passé, pratiquement.
Oui, même, on peut aller même jusqu'au 1930.
Mais Ogino, même encore Ogino.
C'est Ogino qu'il a établi. Donc c'est très très récent. Mais donc je reviens à l'Australie. Donc l'Australie et la Nouvelle-Guinée et bien Malinowski, par exemple, qui avait travaillé sur les trop brillants, et a toujours dit que les Trobriandais ignoraient la paternité biologique. Ça a été discuté ensuite. Hein. Il y a eu un débat chez les anthropologues. Il y en a qui disent oui, d'autres. Il y en a qui disent ils prétendent l'ignorer, mais au fond d'eux-mêmes, ils le savent. Moi, je pense que si l'ethnographie dit qu'il l'ignore, c'est qu'il l'ignore. S'ils disent qu'il l'ignore, c'est qu'il l'ignore. Il faut quelque part écouter ce que disent les informateurs et ce que rapporte l'ethnographe. Donc, on est dans une configuration ici où... Et ça va ensemble, si vous voulez. Par contre, il y a cette idée que le sperme est un lait masculin. Et le sperme nourrit. Et ce qui
donc, est le plus magnifique. On peut dire qu'il y a trois concepts au centre du livre, dont l'allaitement, la sexualité et la façon dont on s'occupe des enfants.
Voilà. Je reviendrai là-dessus. Mais ouais. C'est justement le fil conducteur. Et donc, ça, c'est pour la première région. Disons, qui centrait autour de l'Australie et de ses extensions. La deuxième région, c'est la région de l'Asie du Sud-Est, en gros, l'Asie, la Chine, et tout ça. Où là, on a une conception, on sait très bien que les hommes et les femmes doivent copuler pour faire des enfants, on sait très bien, on connaît les lois de l'hérédité parce qu'on est relativement familier avec avec l'élevage. On va revenir sur ce point. Mais au fond, la relation sexuelle, et c'est aussi bien le cas en Inde qu'en Chine, est considérée comme une relation d'ordre cosmique. C'est-à-dire que c'est considéré comme l'association, en quelque sorte, des contraires, du ciel et de la terre. Et dans cette conception cosmique de l'ordre de la sexualité, ce qui est tout à fait intéressant, et là qui est en quelque sorte une leçon que nous avons d'ailleurs appris, hein, tardivement, mais nous l'avons appris, c'est que le plaisir féminin est aussi important que le plaisir masculin. Et que précisément les manuels d'érotologie chinoises, comme ceux d'ailleurs de l'Inde, hein, le fameux Kama Sutra, tout ça valorise ou cherche ou décrive ou met en avant la nécessité d'un plaisir féminin, ce qui évidemment pas vraiment ce qui ressort de l'Occident. Et alors, ça, c'est la relation sexuelle est donc considérée comme quelque chose d'un ordre cosmique, d'une complémentarité entre le yin et le yang, où les deux doivent également trouver leur compte. C'est ça qui fait, en quelque sorte, que la relation sexuelle participe à l'ordre du monde. Et puis, on a un système sociologique qui semble être complètement détaché, qui est précisément celui que Lévi-Strauss avait décrit, qui est celui de l'échange des femmes, avec soit c'est un échange dans des sociétés, disons, un peu tribales, de l'Asie du Sud-Est, équilibrée, mais qui peut devenir complètement déséquilibré, comme c'est le cas dans la Chine, où au fond, à l'échange des femmes se substitue l'achat, entre guillemets, de la femme, qui va totalement intégrer la maison, la lignée paternelle, va être au service en quelque sorte de la lignée paternelle, même une fois veuve, ce sera elle qui aura la charge donc des tablettes des ancêtres de la lignée paternelle. C'est tout à fait fascinant qu'il y ait cette dichotomie qui est dans ce dispositif-là entre, disons, la conception cosmique de la sexualité et la conception purement sociologique, fondamentalement sociologique, du mariage, puisque là on peut vraiment parler de mariage et de la procréation. Et de l'engendrement d'une lignée. Et puis il y a un autre système, une autre configuration qui est tout à fait étonnante. Alors là, j'en ai pas beaucoup parlé dans ce livre parce que j'en parlais beaucoup dans mes livres précédents, parce que je suis américaniste, hein, donc j'ai beaucoup travaillé sur les Indiens. Et donc dans ce dispositif-là, en réalité, la relation sexuelle, c'est le moyen de mettre en contact le masculin et le féminin. On est dans des sociétés en fait où la division dualiste est très très importante. Il y a deux ordres des choses. En général, c'est des sociétés qui sont organisées en moitié, c'est-à-dire il y a une moitié de la société avec qui on appartient à une moitié de la société, et avec cette moitié de la société, on doit se marier dans l'autre moitié de la société, ce qui fait en fait que pour une moitié de la société, l'autre moitié est féminine, et réciproquement, pour cette moitié-là, l'autre est féminine. Donc il y a cet équilibre. Et ça. Mais dans cette conception typiquement amérindienne, au fond, il y a une sorte de risque que les deux unités qui composent la totalité de la société s'autonomisent trop, s'écartent trop. Et du coup, la relation sexuelle est vraiment intimement perçue comme ce qui fait le lien entre ces deux moitiés. Et elle est perçue en ce qui fait le lien, mais elle est aussi mise en équivalence avec le langage. Parce que le langage est aussi ce qui fait le lien entre les moitiés. C'est-à-dire que s'il y a une partie de la société qui est totalement externe à moi-même, différente de moi-même, je peux quand même parler avec elle. Je dois parler avec elle. Et c'est à travers les rituels. Et là, je fais des analyses qui me paraissent tout à fait assez troublantes. Hein, quand nous-mêmes, j'ai relu tous ces anciens textes, par exemple, de jeunes femmes chez les Sioux, par exemple, qui se dévouent donc pour avoir des relations sexuelles avec des vieux chamans. Et la vertu de cette relation n'est pas espèce de perversité, c'est naissance pour faire plaisir à des vieux. Hein. Ce n'est pas du tout ça dont il s'agit. Il s'agit vraiment, à travers cette relation sexuelle, on va avoir une transmission de savoir, une transmission de puissance, donc un équivalent de la parole. Et ce dispositif rituel répond à quelque chose aussi qui est très très courant dans les sociétés amérindiennes et que beaucoup d'ethnologues ont rencontré et on peut commenter, c'est le fait qu'il y a toujours des relations à plaisanterie entre les sexes Et c'est toujours le sous-entendu sexuel est omniprésent, quoi. C'est-à-dire qu'un homme et une femme se parlent, enfin, ils parlent de sexe. Quand bien même ils le font pas, hein, c'est pas du tout la même chose. Mais je veux dire,
le lieu de la rencontre, c'est
le lieu de la rencontre entre l'homme et la femme, c'est la sexualité.
Et les deux, il y a deux grands concepts aussi évidemment qui sont très opérants dans le livre, c'est les sociétés à élevage et les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Et je voudrais juste ajouter une chose, je viens de découvrir à l'instant la nature de ma lecture du livre, mais ça ne nous aide pas beaucoup, mais c'est amusant. C'est Charles Fourier, je dirais, en fait. J'ai lu ça comme un inventaire des passions possibles, l'infinité humaine des possibles. Et donc j'ai vraiment, c'est pour ça que je parlais de ludisme là tout à l'heure. Mais ça sert à rien parce que Fourier est illisible. Donc on est en tournant rond. C'est purement intentionnel ou de consommation en fait, mais de là à le réaliser. Mais cette opposition, c'est parce que quand on vous entend parler, on revient à quelque chose d'assez abstrait. Alors que quand on lit le livre, on a vraiment, on est avec ces gens, on est à peau, on voit l'ameublement, les vêtements qui en découlent, tout en découle. On voit. Alors évidemment, si je dis élevage et chasseur-cueilleur, il y a aussi la notion d'horticulture. Maintenant, horticulteur, c'est un concept relativement récent qui a 30 ans, quoi. C'est d'escola, j'imagine. Et ça fait image tout le temps. Donc on a vraiment, on est avec les gens, on est là, on participe. Et pourtant, ça va très très vite. Donc c'est ce flipbook là, très très vite, d'images qui se succèdent.
Ah ben oui, enfin c'est ce que j'essayais de faire, hein, c'est-à-dire de capter des situations. Bon, par exemple, la situation du Gotoul, qui est tout à fait étonnante, dans ces populations qu'on appelle marginales de l'Inde, hein, ces traditions qui font qu'il y a, toutes les jeunes filles sont invitées dans des pensionnats pour leur initiation sexuelle. Et là, les choses sont tout à fait... Bon, je reprends les détails, c'est pas moi qui les ai évidemment collectés sur le terrain. Il y a des très beaux livres, celui de notamment dessus, donc, mais ce sont effectivement des ethnographies très parlantes, et j'avoue que j'ai essayé effectivement de reprendre ces éléments, non pas dans le but de faire quelque chose d'un peu croustillant, mais de faire quelque chose de vraiment parlant.
Ah non, c'est beaucoup plus profond que le côté croustillant, c'est éthique.
Je l'espère.
C'est éthique au sens propre. On voit que si on fait ceci, il en découle cela.
Exactement.
On pourrait prendre par exemple le rapport aux enfants. Sur un truc qui n'est pas croustillant et qui est éthique, comment est-ce qu'on va s'occuper des enfants collectivement, individuellement, qui
Absolument.
Va s'en occuper, à quel moment on devient très attentif à ces choses et puis c'est assez agréable de voir que quand une impasse se dessine, une porte de secours se dessine à côté, parallèlement.
Et ça, je crois que c'est là où j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre, hein, je le dis franchement, c'est que adopter cette perspective qui avait été un peu négligée par mes collègues m'a vraiment permis de re-rentrer dans ces ethnographies. Pour certaines sont très classiques, hein,
et il y en a qu'on connaît très bien et d'autres beaucoup moins,
et c'était un vrai plaisir de la redécouverte. Alors là, si vous voulez, ce qui fait vraiment rupture avec l'Occident, ce que j'essaie de faire, c'est de dire que l'Occident a la différence à la fois donc de l'Australie, qui ignore donc la paternité biologique, à la fois à la différence de l'Amérique, qui sait très bien qu'il faut un homme et une femme pour produire un enfant, c'est très bien que la complémentarité biologique est nécessaire, mais qui, l'Amérique, ignore l'hérédité biologique. Là, la différence est un peu subtile, et je crois que personne ne l'a vu, sauf moi. Parmi mes collègues, c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que les Indiens, qui ont une perspective très inspirée, qu'on peut réduire à du totémisme, c'est-à-dire qu'il y a des espèces animales, chaque espèce animale est différente, hein, ça c'est la grande leçon de Lévi-Strauss dans le totémisme aujourd'hui, le livre magnifique, eh bien les Indiens ont parfaitement cette conception, mais donc comme un loup et une louve engendrent des louveteaux, un homme et une femme engendrent des humains. Mais cet humain qui est engendré n'a pas forcément reçu des caractéristiques différentielles de son papa et de sa maman, comme nous le pensons. Vous voyez la différence ?
Bien sûr.
C'est la différence entre la connaissance du mécanisme global de la procréation au niveau de l'espèce, avec une connaissance qui est la nôtre, c'est-à-dire de l'hérédité biologique, mais cette connaissance de l'hérédité biologique, elle est strictement liée ou en corrélation avec l'élevage. Alors, est-ce que c'est l'élevage qui nous a instruits sur l'hérédité biologique ou si c'est notre connaissance de l'hérédité biologique qui nous a instruits sur les mécanismes de l'élevage? Les mécanismes principaux de l'élevage, c'est, première chose, on fait en sorte que les animaux se sentent bien autour de soi, donc on crée de la dépendance de certaines espèces animales par rapport à nous-mêmes, mais surtout, ensuite, on sélectionne. C'est-à-dire qu'on va choisir, on va éliminer les mâles ou les femelles. On l'a fait surtout sur les mâles, mais on peut le faire aussi sur les femelles. C'est-à-dire ceux dont on pense que leurs caractéristiques physiques n'ont pas intérêt à être transmises à la génération suivante. Et donc, l'élevage, ça repose sur la sélection. Et c'est là qu'il faut faire une grande différence qui n'est pas très claire chez beaucoup de mes collègues, même ceux qui se sont beaucoup intéressés à ces questions, entre domestication, apprivoisement. Par exemple, en Amérique, il y a des phénomènes d'apprivoisement. Les Indiens en Amazonie, les Indiens des plaines et tout ça, ils apprivoisaient des petits, prenaient des petits, chassaient, ils récupéraient le petit. On a même des images très intéressantes. On voit quelques-unes, hein, très rares, mais qui sont assez bien connues, où on voit donc des jeunes indiennes qui vont alimenter un petit bébé castor au sein. Il y a les fameuses images de tristes tropiques où on voit la proximité qu'il y a entre certains, les guenons et puis les indiennes en piquara. Donc ça, c'est l'apprivoisement, mais ce n'est pas l'élevage. L'élevage, c'est la sélection. C'est-à-dire qu'on contrôle. On contrôle la reproduction. On contrôle la reproduction de certains individus au sein de l'espèce. Et c'est totalement différent. Donc, la thèse centrale, c'est que la particularité de l'Occident, c'est cette équivalence qu'il y a entre procréation humaine et pratique d'élevage.
On va écouter un petit morceau de musique et après, on va développer cet aspect-là, ouais, qui est la deuxième partie du livre et qui est très importante.
Planche,
coup,
couteau,
bijoux,
bouteille,
sous,
bibelot de lourde,
marée haute,
arithmétique,
Noël,
Père Noël,
tabac,
obus,
un passant qui pue,
la nuit, cette fois derrière le stade où tu as fait ta danse d'Indien pour lui, pour qu'il pleuve sur lui. Notre-Dame en feu qui rougeoie dans la nuit la vache.
Le poing d'un mec sous, écrasé sur une bouche.
Carton,
citron,
étron,
pinson,
coton,
dindon,
houlon,
gazon,
avion,
majesté,
vitesse du son. Cette fois derrière le stade où tu as fait ta danse d'Indien pour lui.
Pour qu'il pleuve sur lui.
Tout s'efface lentement, tout lentement, tout finit comme un os, blanc comme un os, le temps est si doux.
Grêle,
toi,
bruit,
Barbara,
la foutue manie qu'il a de traîner son passé d'art.
Kadhafi campant dans les jardins de l'Elysée, moi,
dégustant mon sorbet cassé. Pour aborder la deuxième partie, nous sommes sur Aligre FM 93.1. Je suis avec Emmanuel Desvaux et on parle de sexualité, société, nativité. Et parce que là, il y a un enjeu, et l'enjeu, c'est la PMA. Et la PMA a un rapport avec la pornographie. Et donc, c'est un petit peu le fil que c'est le point d'aboutissement du livre. C'est sa motivation première et son point d'aboutissement.
Motivation première, non.
Non.
Son point d'avitissement, probablement, oui. D'ailleurs, il y a un très bon article apparu dans Libération récemment et qui met l'accent sur cette mise en miroir que je fais entre PMA et pornographie. Mais le livre ne se limite pas du tout à ça. Hein. J'incite nos auditeurs à ne pas réduire le livre à cette thèse-là. Donc non, ce qui est important, et pour revenir un peu en arrière, ce qui est important, c'est de bien voir comment, en réalité, l'Occident a forgé, en quelque sorte, sa conception de la procréation à partir ou en décalque de sa connaissance des lois de l'hérédité biologique. Ce qui fait que, si vous voulez, l'enjeu devient un peu différent par rapport à ce que c'était dans les autres civilisations ou les autres aires culturelles. Les autres aires culturelles, d'un côté, la sexualité, c'est une façon de communiquer. D'un autre côté, la sexualité, c'est une façon de réenchanter le cosmos. D'un autre côté, la sexualité, c'est une sorte de mutualisation des plaisirs. Eh bien, dans l'Occident, la sexualité, elle a cette vision téléoscopique. Il peut en sortir un enfant. Un enfant peut venir de cette relation et cet enfant aura des caractéristiques, des traits de caractère, des ressemblances physiques de nous, de moi et de toi avec qui, dans lequel nous sommes en train de faire l'amour. Et ça change complètement la signification même de la relation sexuelle. Et ça change évidemment les implications sociales que ça peut avoir. Et donc, très clairement, en Occident, dès lors que s'installe cette connaissance, pas une connaissance, c'est évidemment une connaissance empirique, hein, c'est pas exactement la nôtre, mais enfin, ça correspond. Une connaissance que moi, je définirais d'une sorte de phénoménologie de l'hérédité, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit effectivement, dès lors qu'on le recherche, on s'aperçoit des ressemblances entre un enfant et ses parents. Si on ne les recherche pas, on ne les trouve pas. Hein. Donc c'est bien parce qu'on est habitué culturellement à rechercher ces ressemblances qu'on les détecte. Et d'ailleurs, en Occident, ce n'est que tardivement qu'on voit les ressemblances entre, par exemple, un garçon et sa mère. C'est très tard.
Oui, donc, si on prend les Romains, par exemple, c'est père-fils.
Exactement.
C'est au centre de la société.
Voilà, exactement. C'était...
Et le premier fils.
Voilà. Et donc avec cette vision un peu évidemment fausse, bien entendu. Et donc là, dans ce débat, si vous voulez, qui s'installe, est-ce que la semence masculine fait tout et la femme ne serait qu'un réceptacle, ou est-ce qu'il y a un équilibre entre les deux, quoi? Entre les deux, il y a une contribution en quelque sorte de l'homme et de la femme dans la formation, la conformation de l'enfant à naître. Bon, débat, Aristote disait que c'était uniquement la semence masculine qui comptait. Galien dit non, c'est les deux, à peu près équilibré. Donc il y a ce débat qui est là, constant, qui s'installe en Occident jusqu'à aujourd'hui. Enfin, jusqu'au XVIIIe siècle au moins. Alors ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que effectivement, dans ce dispositif-là, ça va renforcer, et c'est vrai, il n'y a aucun doute là-dessus, une proportion patriarcale. C'est-à-dire que dès lors que si je fais l'amour avec une femme, cette femme va porter quelque chose de moi et qui deviendra un enfant, eh bien, si le dispositif social par ailleurs y est favorable, je vais avoir tendance à m'approprier cette femme ou à la contrôler du moins, sinon m'approprier, à développer le contrôle. Première chose, pour être sûr, qu'elle ne couche pas avec quelqu'un d'autre et que donc celui que je crois être mon enfant ne l'est pas. Donc là, il faut attendre les tests en paternité. C'est tout récent pour avoir déjoué en quelque sorte cette incertitude qui est une incertitude profonde. Et puis l'autre chose aussi, c'est que finalement, la sexualité est potentiellement, dans un certain cadre, à cette vocation purement procréative, faire un enfant qui me ressemble, une partie de moi qui se transmettra à travers le temps, dans une lignée. Et puis, alors, ça laisse un espace vacant qui est le plaisir sexuel. Et là,
il va y avoir l'intervention de la religion catholique avec une vierge qui met au monde un enfant.
Mais ça vient un peu plus tard.
Donc, ouais, mais
donc,
quand même,
oui, oui, non, mais c'est ça.
On parle de l'Occident.
On parle de l'Occident, mais là, moi, j'en suis encore à l'Antiquité. Ouais. Donc, à l'Antiquité, effectivement, et c'est très bien, on le connaît très bien pour la Grèce antique, hein, donc se développe en quelque sorte une double sexualité, une sexualité procréative dans le cadre de la maison et une sexualité à proprement parler récréative qui peut être homosexuelle ou qui peut être hétérosexuelle. On a donc on a beaucoup de littérature là-dessus et on s'est bien documenté. C'est effectivement quelque chose qui est en train de faire. L'une des choses d'ailleurs qui m'a un des livres que j'ai lu pour en préparant le mien qui m'a vraiment séduit, c'est celui de Fontizi, Madame Fontizi, qui montre justement qu'en réalité les jeunes éphèbes, qui était l'objectif de la convoitise des hommes grecs, l'étaient aussi de femmes grecques elles-mêmes.
Oui.
C'est-à-dire que cette beauté de l'éphèbe était une beauté qui était partagée en quelque sorte, donc, qui suscitait un désir aussi bien homosexuel qu'hétérosexuel, avec cette idée, oui, effectivement, d'une sexualité d'autant plus récréative qu'elle est foncièrement stérile, hein. L'homosexualité, la sodomie, évidemment, est synonyme de stérilité intégrale. Voilà. Alors, dans ce dispositif-là, va arriver le christianisme. Et effectivement, le christianisme... j'ai cité les textes. Hein, certains sont connus, d'autres un peu moins connus. Texte de Saint Paul et tout ça. Hein, mais ils me disent à peu près tous la même chose. C'est qu'il n'y a plus de différence entre l'homme et la femme. Il y a une sorte de l'idéal, c'est une sorte de fusion. La relation sexuelle est une fusion una caro, une seule chair. Mais cette seule chair, elle est vraiment, elle abolit vraiment la domination masculine, idéalement, bien entendu. Hein, c'est pas... Mais dans l'enseignement même de l'Église, on a quand même quelque chose qui valorise le féminin, évidemment, donc la Vierge Marie. Bien entendu, en est l'incarnation, et qui tente à faire une transmutation de la relation sexuelle, avec en disant qu'elle est à l'image de l'union du Christ du Christ avec son Église. Donc, on se situe à un niveau très spirituel, très, très abstrait, et dans lequel, au fond, la procréation, évidemment souhaitée, mais elle apparaît comme un élément de la providence. Et elle apparaît en quelque sorte comme quelque chose qui résulte de la volonté divine. Dieu a besoin d'enfants pour peupler le monde, hein, et donc Dieu va, dans cette relation sexuelle très abstraitisée, très spiritualisée, va lâcher, en quelque sorte, des enfants qui vont naître, comme le produit de la providence.
Mais vous écrivez aussi que la femme va satisfaire le désir sexuel de l'homme par charité, en fait.
Absolument. Et c'est dans les deux.
Une vertu théologale.
Dans les deux.
Dans les deux
et
cas.
Symétrique. Ouais. Alors là, c'est pas. Alors là, c'est ouais. C'est quelque chose qui va se développer plus tard, mais semble-t-il, chez les pères de l'Église, il y a une symétrie parfaite. Il y a de la concupiscence, effectivement. Et l'homme, par charité, doit assouvir le désir de sa femme, comme la femme, par charité, doit assouvir le désir de son mari. Il y a un texte de Saint Paul qui est très clair. Le corps de l'homme appartient à sa femme et le corps de la femme appartient à l'homme. Et la symétrie est parfaite. Et effectivement, le dispositif, si vous voulez, du christianisme, dispositif idéal, bien entendu, est quand même entièrement construit sur cette mise en symétrie parfaite de l'homme et de la femme. Je vous rappelle aussi que c'est effectivement quelque chose qui, on peut dire que la fameuse notion du consentement, mais qui est très délicate à traiter, mais dans l'Église catholique, dans la doctrine catholique, le mariage doit être consenti par les deux parties à égalité. C'est un des piliers du mariage, c'est le consentement mutuel.
Et je pensais là tout à l'heure sur la sélection, on a Darwin par exemple, si on approche Darwin, il y a quelque chose dans cette notion d'élevage qui sous-entend déjà aussi l'industrialisation. C'est pas un rapport à la nature, c'est très tôt l'instrumentalisation de l'élevage plutôt qu'une observation. C'est un, C'est une. On intervient assez brutalement, en fait, pour sélectionner. La sélection est toujours quelque chose de très brutal. Et c'est ce qui va finir par nous conduire dans le mur. Et c'est l'idée. L'idée que le catholicisme, par exemple, en mettant l'homme au centre du monde, est très anti-écologique, ça paraît assez évident. Mais là, on a la notion de nature, enfin, peu importe. On pourrait peut-être parler de la PMA, là, parce qu'il nous reste des tonnes de temps.
J'ai un peu, évidemment, on a un peu l'esprit d'escalier. On a
totalement.
On suit un peu notre...
dans le même escalier.
On suit un peu chacun notre idée, mais... Ce que je veux dire, c'est que s'installe à partir du christianisme en Occident, en fait, deux conceptions qui, disons, celle qui est inspirée par le modèle de l'élevage et puis celle du christianisme. Et ces deux conceptions se font entièrement concurrence, compétition, tentant. Il y en a une qui prévaut sur l'autre selon les époques et tout ça. Mais ces deux conceptions, au fond, se retrouvent sur une chose qui vient à l'encontre de ce qu'on observe partout ailleurs. C'est-à-dire que dans toutes les autres sociétés, vous avez une séquence qu'on peut appeler une séquence reproductive ou une séquence procréative qui va, mariage si on veut, mais enfin disons, de la copulation fécondante, gestation, naissance, allaitement, sevrage et relative autonomie de l'enfant. Et dans toutes la plupart des civilisations, ces sociétés, comme je les appelais, exotiques, traditionnelles, cette séquence est en fait linéaire. Bien sûr, la naissance est un moment de cette séquence, mais ce n'est pas forcément un moment extrêmement marqué. C'est un moment évidemment très dangereux, puisque c'est un moment où le corps de la femme est en danger, et celui de l'enfant évidemment plus encore, mais c'est un danger un peu critique. Mais en fait, la séquence, elle est totale, c'est-à-dire que c'est à la fois la copulation, à la fois le ventre qui se remplit, la gestation, la naissance, et puis l'allaitement. Alors en Occident, on a fragmenté cette séquence. Et c'est là où, outre phénomène de la sélection, en quelque sorte, qui se situe auparavant, en amont, c'est là où la question de l'allaitement est cruciale. C'est-à-dire qu'en Occident, et très tôt, hein, les textes sont tout à fait très parlants à ce moment-là, au fond, on fait comme un éleveur, on peut séparer l'enfant de sa mère. On peut le donner à une nourrice. On peut considérer que la mère n'est pas forcément une bonne nourricière et qu'il faut trouver une autre solution. Ou on peut considérer à l'inverse, ah non, franchement, c'est la meilleure solution, c'est l'allaitement maternel. Et ces discussions qui sont très anciennes, depuis les Grecs, on retrouve exactement les mêmes aujourd'hui à propos de l'allaitement maternel versus allaitement par le biberon. Donc elles sont intactes, ces discussions. Et ce qui est tout à fait fascinant, c'est qu'il y a un élément qui fait la différence, en quelque sorte, entre l'allaitement, disons, spontané, et l'allaitement à l'occidental, c'est le colostrum. En Occident, depuis l'Antiquité, il y a un problème de colostrum. Qu'est-ce que c'est que le colostrum ? C'est ce liquide un peu jaunâtre, très très riche et très protecteur pour l'enfant, qui coule des seins de la mère juste après l'accouchement. Et en gros, colostrum, 2-3 jours.
Oui.
2-3 jours.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Bon, donc le colostrum est tenu en horreur par les Occidentaux jusqu'au XVIIIe siècle où on lui trouve des vertus thérapeutiques. Mais avant, donc, on fait tout pour éviter en quelque sorte de nourrir l'enfant. De nourrir l'enfant avec le colostrum. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va couper la séquence entre accouchement et allaitement. Et on va choisir une nourrice ou pas une nourrice, ça n'a pas d'importance. Mais ce qui est important, c'est qu'on coupe la séquence. Et donc la séquence, qui était une séquence au fond naturelle, devient une séquence artificialisée. Et c'est exactement ce que font les éleveurs, qui choisissent, qui prennent un agneau. Ah, cette brebis-là, elle nourrira mieux, ça marchera mieux, on va faire ci, on va faire ça. Donc on disloque en quelque sorte la séquence procréative et on commence à l'artificialiser. C'est le début d'une longue artificialisation dont la PMA est l'ultime, l'ultime moment en quelque sorte. Et c'est ça qui est tout à fait...
Et on a assisté très rapidement à une libéralisation des mœurs. Moi qui avais 20 ans en 68 par exemple, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse y avoir de la pornographie à domicile telle qu'elle se présente aujourd'hui. Et il y a une complémentarité dans cette espèce de self-service. Donc l'idée, c'est que quand un donneur de sperme va à l'hôpital, on lui donne des magazines pornographiques. Et donc si on fait ça, c'est que ces magazines pornographiques sont devenus des choses très courantes qui ne choquent plus personne en fait. Hein. Donc Emmanuel sur les Champs-Élysées, ça doit être 74 ou 75 là. Et la donne change et cette instrumentalisation de la vie, la PMA passe là-dessus. Il y a un élément nouveau qui n'est pas dans votre livre, qui est que c'est des dames seules maintenant qui demandent la PMA. Et ça fout un monstre cafard d'imaginer que des êtres qui sont incapables de trouver un compagnon vont faire un enfant. On est dans un film d'horreur, là. On a un nouveau chapitre qui s'ouvre devant nous de psychose de Hitchcock, là, tout à fait parfait, en fait. C'est vraiment un scénario de film d'horreur. Femme seule demandant à être fécondée pour avoir un enfant gadget à la maison avec le sperme d'un homme qui s'est masturbé sur des revues pornographiques dans un hôpital. C'est quand même extraordinaire.
Ah, c'est extraordinaire. Bon, écoutez, moi, je n'ai pas trop insisté là-dessus. Hein. Je l'ai mis, c'est un peu la conclusion.
Vous allez
de
passer
mon livre
pour un réac, mais c'est ça le problème.
Cette autre question. Mon opposition à la PMA, parce que je suis opposé à la PMA, est une opposition ontologique. Ce n'est pas une opposition politique.
Vous n'êtes pas catholique.
Je ne suis pas catholique.
Si vous l'êtes, vous pouvez le dire. Mais
non, je ne suis pas catholique.
On est sur une radio libre, mais...
Je ne suis pas catholique, tout en reconnaissant au catholicisme et au christianisme un certain nombre de vertus, notamment peut-être justement d'avoir sorti l'Occident d'un patriarcat brutal qui était celui de l'Antiquité. Mais comme le dit Foucault, d'ailleurs, c'était déjà préparé par le stoïcisme. Le stoïcisme avait préparé le terrain de la révolution, en quelque sorte, chrétienne. Donc, voilà. Mais non, évidemment, d'un autre côté, le christianisme ayant fait l'impasse sur la relation sexuelle en tant que lieu de rapprochement et de plaisir, de vie, de communication, d'interaction entre les êtres, évidemment, c'est pas... On ne va pas non plus dire que c'était la solution, hein. D'avoir réduit la relation sexuelle uniquement à sa visée procréative. Mais effectivement, on voit une évolution, et moi, cette évolution, ce qui me frappe, c'est qu'on retourne un peu à la situation de l'Antiquité. D'ailleurs, j'étais frappé de voir que les pratiques pornographiques de la Grèce antique et les nôtres sont exactement les mêmes. Elles sont...
Ah oui, parce qu'on a les graffitis.
Oui, on a les graffitis. On voit très bien. C'est exactement la même chose.
C'est
exactement la même chose. Fellation.
Ils connaissaient tout.
Tout y est.
Les animaux, enfin tout ce qu'on peut imaginer.
Tout ce qui fait le vocabulaire de notre pornographie contemporaine, il est déjà là, quoi, en quelque sorte. Et c'est très impressionnant de ce point de vue-là. Et donc, effectivement. On a l'impression que voilà la dissociation de la procréation et de la sexualité, source de plaisir, est complètement accomplie, quoi. Voilà, la dissociation est totale. Et quand on... Je ne suis peut-être pas aussi alarmiste que vous en ce qui concerne le futur de l'humanité à partir de la PMA, mais ce qui, moi, que des femmes... dans certaines circonstances, trouve acculé à avoir recours à ce procédé, peut-être, je ne sais pas, mais que ça soit devenu, grâce à la sanction de l'État, une solution officielle, en quelque sorte, de procréer, ça, je trouve que c'est très regrettable. Je veux juste finir là-dessus, parce qu'au fond, ça consacre le fait que les hommes et les femmes ne sont pas faits pour vivre ensemble. Qu'on peut imaginer une société de séparation totale des uns et des autres. Au fond, ils n'ont pas besoin de vivre ensemble.
C'est des phases, on est d'accord. Ce n'est pas linéaire. Mais si une femme seule fait un enfant par PMA, vous identifiez à la femme ou à l'enfant ?
Moi, je m'identifie.
À la femme ou à l'enfant, oui.
Ah, ça, c'est une bonne question. Moi, en tant qu'homme, est-ce que je m'identifie à la femme et à l'enfant ?
En tant qu'être humain, vous identifiez...
Ah, bonne question, c'est très bonne.
Parce que moi, je m'identifie à l'enfant. Et pour des raisons biographiques, comme tout le monde, oui. J'imagine. Et donc, ce qui est bien en ayant des parents, quels qu'ils soient, hein, même si c'est les Thénardier, c'est que deux, c'est dialectique.
Oui.
Un, ça cesse d'être dialectique, mais c'est le totalitarisme.
J'en suis convaincu.
Et moi, je ne suis pas catholique, j'ai une éducation catholique, donc il n'y a pas de quiproquo possible dans ma position. Et j'ai plutôt la réputation d'être d'ultra-gauche, donc ça devrait aller sur ma position. Mais le fait qu'une femme seule fasse un enfant, comme je m'identifie à l'enfant, je dis non. Mais c'est anti-dialectique, c'est potentiellement tout à fait terrorisant.
Moi, je pense, je partage globalement votre position. Je vois bien comment cette position peut être décrite comme réactionnaire, mais je pense qu'il faut assumer une partie de nous-mêmes lorsqu'on est vraiment choqué par certaines choses qui sont en train de se passer. Et surtout, moi, pour moi, c'est l'aboutissement du néolibéralisme. C'est-à-dire que l'individu est réduit à sa capacité de produire, de consommer, de procréer. Femmes vont procréer par PMA, les hommes vont aller se masturber dans les hôpitaux, et ça marche. Enfin, dans ce schéma-là, hein, dans cette vision des choses. Et quand c'est l'État même qui organise en quelque sorte la distribution du sperme, c'est quand même aussi une forme d'eugénisme.
Cet sperme
est choisi. Et là, ce qui me frappe, moi, c'est, je vous ai tout un chapitre avec le rapport entre nazisme et le régime qu'avaient imaginé les soviétiques. Et ce qui me frappe, c'est qu'on va vers ça. Ces régimes totalitaires qui avaient imaginé des utopies qui étaient très radicales, le libéralisme les installe.
Et donc la question de l'eugénisme est la question du XXe siècle. Et les démocraties ont beaucoup donné dans l'eugénisme aussi. Et donc, c'était le 1920, la Suède, par exemple,
on sait qu'il y a des prémices.
Le totalitarisme est une potentialité qui est partout. Les nazis, c'est juste une caricature.
On est d'accord. Mais il y a des prémices. Il y avait des prémices dans les démocraties.
C'est formidable. Hein.
Mais
on est obligé de conclure. Très vite. Votre livre est très riche. Sexualité, société, nativité au Champ-Vallon. Fortement recommandé par La Vie est un roman. Merci d'être venu. L'heure est passée.